Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer des sujets assez variés.
Oui, bonjour. On va regarder de près des situations bien différentes.
Tout à fait. On a des sources qui nous parlent des défis sociaux au Maroc, d'une libération très attendue sur la scène internationale, et puis des changements dans la diplomatie américaine.
C'est ça. On va essayer de décrypter un peu tout ça.
Notre mission, comme d'habitude, comprendre les enjeux essentiels derrière ces infos. Alors, c'est parti.
Allons-y. On commence par le Maroc, c'est ça?
Avec la situation des travailleurs sociaux.
Exactement. On a un éditorial qui met le doigt sur un paradoxe assez frappant là-bas.
Ah oui? Lequel?
Le rôle absolument crucial, mais très peu reconnu, presque invisible, des travailleurs sociaux.
Essentiel, mais invisible. Voilà. Ils sont sur tous les fronts, hein. L'aide aux personnes précaires, le handicap, les femmes victimes de violences, les enfants des rues.
Le travail de terrain, quoi.
C'est ça. Mais leur statut? Mais il reste flou. Les salaires sont dérisoires, parfois. À peine au-dessus du SMIC marocain. Une source parle de 3000 dirhams.
Ah oui, c'est très peu.
Oui. Et les conditions de travail sont précaires. Et ça, même après une loi, la loi 45.18, qui était censée, justement, améliorer les choses, encadrer la profession.
Donc la loi n'a pas vraiment changé la donne sur le terrain.
Apparemment pas assez. La ministre de la Solidarité elle-même, elle reconnaît l'urgence. Elle parle d'un métier fantôme qu'il faut absolument structurer.
Un métier fantôme, c'est fort comme terme.
Oui, et il y a une promesse. Former 10 000 assistants sociaux d'ici 2030.
10 000 d'ici 2030. C'est ambitieux, mais ça montre le besoin.
Ce qui est fascinant, c'est ce décalage, hein. On reconnaît leur importance stratégique pour l'État social, mais...
Mais on ne leur donne pas les moyens.
Exactement.
Pas de moyens concrets. On leur demande d'être un peu tout, psychologue, médiateur, assistant juridique.
La totale.
Oui, et avec des outils dérisoires, comme le dit une source, ça pose une question de fond, non? Sur la construction de cet État social.
Ben oui. Est-ce qu'il peut vraiment tenir s'il repose sur des gens qui sont eux-mêmes dans la précarité?
C'est ça. Un sociologue cité Rachid Gharaoui le dit très bien. L'État social ne se décrète pas, il se déploie par les bras et les oreilles des travailleurs sociaux.
Belle formule. Et très juste.
Donc c'est un enjeu de justice sociale, bien sûr, mais aussi d'efficacité de l'action publique. C'est vraiment fondamental.
Et au-delà de la formation promise pour 2030, est-ce que les sources parlent de mesures, disons, plus immédiates, pour ceux qui sont déjà là, sur le terrain?
Alors, les sources insistent surtout sur le besoin de structuration à long terme, ce plan de formation. La question des moyens immédiats, de la revalorisation rapide, elle reste un peu en suspens. C'est le nœud du problème, en fait.
D'accord. Un dossier à suivre au Maroc, donc.
Tout à fait. Et pendant ce temps, ailleurs, en France, une autre histoire, une très longue attente, vient de se terminer.
Ah oui.
La libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah, après 40 ans de prison.
40 ans. C'est une durée exceptionnelle, non? Surtout en Europe occidentale.
Oui, tout à fait. C'est énorme. Et sa libération, elle est présentée comme un événement très marquant, controversé pour certains, très symbolique pour d'autres.
Symbolique dans quel sens?
Alors, Abdallah a été condamné à perpétuité en 87 pour complicité dans l'assassinat d'un diplomate américain et d'un diplomate israélien.
D'accord.
Donc, pour certains, il reste un terroriste. Mais pour beaucoup d'autres, il est une icône de la résistance. Libanaise, pro-palestinienne.
Une figure politique, donc?
Oui. Les sources disent qu'il était le plus ancien prisonnier politique d'Europe occidentale. Et apparemment, sa détention a été marquée par de fortes pressions politiques.
Des pressions? Pour empêcher sa libération.
C'est ce que les sources suggèrent, oui. Notamment américaines et israéliennes. Plusieurs demandes de libération conditionnelle avaient été refusées par le passé.
Donc sa sortie maintenant, c'est vu comme une victoire par ses soutiens?
Exactement. Une victoire symbolique, comme le dit une des sources, c'était apparemment la fête au Liban. Et sur les réseaux sociaux, on a vu le hashtag Free Georges Abdallah.
Et il est souligné, je crois, qu'il n'a jamais renié ses convictions.
C'est ça. Et ça amène la question, posée dans un article, est-ce que cette détention exceptionnellement longue était finalement surtout politique?
C'est une question légitime après 40 ans. Son histoire est aussi présentée comme une sorte de message.
Oui, un message de persévérance pour les militants, que la résistance, même très longue, peut finir par aboutir.
Intéressant. Et ça fait le lien, peut-être, avec notre troisième sujet, la question de la reconnaissance politique ou de son absence.
Oui. On peut voir un lien. On passe aux États-Unis et à l'UNESCO.
C'est ça. Une dépêche nous apprend que Donald Trump, s'il est réélu, annonce le retrait des États-Unis de l'UNESCO. Ce serait effectif fin 2026.
Encore une fois.
Oui, c'est un peu un air de déjà-vu. Les raisons invoquées cette fois, d'abord, l'organisation soutiendrait des causes culturelles et sociales woke. C'est le terme utilisé.
Le mot est lâché.
Voilà. Et puis, l'admission de l'État de Palestine en 2011, ça reste hautement problématique pour son camp.
D'accord, donc des raisons à la fois idéologiques et politiques.
Oui, et une porte-parole de la Maison-Blanche citée insiste, Trump fera toujours passer l'Amérique en premier, le slogan habituel.
Ce qui est intéressant, c'est ce côté cyclique, comme vous disiez, ce n'est pas la première fois.
Non, Trump avait déjà retiré les États-Unis fin 2018, et puis Joe Biden les a réintégrés en 2023.
C'est ça, un vrai yo-yo diplomatique. Exactement. Les réactions, elles sont sans surprise, en fait. La directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, elle regrette, mais elle dit qu'elle s'y attendait un peu.
Oui, on imagine.
Et Emmanuel Macron, lui, a réaffirmé le soutien de la France à l'organisation.
Bon, cette décision potentielle, elle s'inscrit dans un débat plus large, j'imagine.
Oui, tout à fait. Sur le rôle des États-Unis dans le multilatéralisme, et puis sur la politisation de ces grandes institutions internationales, culturelles, éducatives. C'est un débat constant, en fait.
Bien sûr. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, on est parti de la fragilité de ceux qui font le social au Maroc.
Oui.
Pour aller vers la portée historique, symbolique d'une libération après des décennies de combats politiques.
Mmh.
Et on termine avec les oscillations de la politique étrangère américaine face aux institutions mondiales. Trois tableaux bien différents.
Très différents en surface, oui. Mais peut-être qu'il y a un fil rouge, celui de la reconnaissance.
La reconnaissance, c'est-à-dire ?
Ben, la reconnaissance professionnelle, humaine, qui manque cruellement aux travailleurs sociaux marocains, par exemple.
D'accord.
Ensuite, la reconnaissance politique ou son refus, qui a marqué toute l'histoire de Georges Abdallah, et qui se joue aussi quand on admet ou pas un État dans une instance comme l'UNESCO.
Je vois. Et le troisième point ?
Et enfin, la reconnaissance par les États eux-mêmes, de la valeur du cadre proposé par le multilatéralisme, par la communauté internationale. Les États-Unis qui entrent, qui sortent, c'est aussi une question de reconnaître ou rejeter ce cadre. Avec une question pour conclure, quelle valeur est-ce qu'on accorde collectivement à ces différentes formes de reconnaissance dans notre monde actuel qui bouge beaucoup ?
Bonne question. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.